Merci beaucoup, Yvan, pour cet exposé passionnant et très stimulant, avec beaucoup d'anthropologie à l'intérieur. Donc c'est, ça m'intéresse toujours beaucoup. Je trouve que c'est très intéressant comme théorie de l'aliénation. Je suis tout à fait, je rejoins ta conclusion sur le fait que ma jouissance n'est pas le tout, etc. En fait, enfin, toutes les critiques qui sont des critiques plutôt de la modernité, de la totalité, je trouve ça évidemment passionnant. Mais alors du coup, ça m'a fait penser à une autre explication possible, la tour de Babel. Et je ne sais pas si c'est une hérésie ce que je vais dire. J'espère que on peut dire ça. Je vais essayer de défendre la tour de Babel. Je ne sais pas si c'est possible. Mais, tu me dis jusqu'où on peut aller. Comme étant une espèce de tentative, d'essai qui a échoué, de tentative inachevée, qui a son sens justement précisément parce que c'est inachevé. Et d'essayer de voir la tour de Babel non pas comme l'expression d'un pouvoir vertical, mais comme la tentative. Pourquoi est-ce qu'on n'interprète pas ça plutôt comme un pont qui articulerait précisément la terre et le ciel? Et ce qui m'a fait penser à ça, c'est notamment le fait que tu aies insisté sur l'idée que c'était aussi la représentation d'une montagne. Et or, la montagne, dans la Torah, c'est un élément, je crois, important, notamment pour la réception de la loi et pour la proximité avec Dieu. Donc on pourrait se dire qu'il y a une simulation de cette volonté de reproduire une proximité avec Dieu pour avoir un accès peut-être plus immédiat à la loi. Donc, au lieu de l'expression d'un pouvoir vertical ou de la verticalité d'un pouvoir, je me demandais si justement il n'y avait pas plutôt l'idée d'un pont. Et alors, ce qui me fait penser à ça aussi, c'est parce que tu envisages des interprétations anthropologiques, et donc ça m'a fait penser à Lévi-Strauss et à toutes les mythologies que Lévi-Strauss étudie, notamment celle des Bororo, etc., où il y a l'idée de trouver un juste milieu entre le ciel et la terre, avec l'idée que si le soleil est trop loin, on pourrit, si le soleil est trop près, on brûle. Donc il faut trouver un juste milieu. Et je me dis, voilà, est-ce qu'on ne fait pas une projection de nos critiques de la modernité sur la tour de Babel là, parce que je me dis, bon, si on se remet dans cette temporalité de la tour de Babel, j'ai lu l'interprétation d'un rabbin du Moyen-Âge, je n'ai pas la mémoire des noms, donc je suis vraiment désolée, je l'ai plus. Mais comme tu disais, sur la conjuration du déluge, donc avec l'idée que la tour de Babel, c'était plutôt l'idée soit de soutenir le ciel pour pas qu'il s'effondre à nouveau, parce qu'en fait, il y a une idée qui est commune à beaucoup de mythologies, c'est qu'on a peur que le ciel s'effondre. Donc on construit la tour de Babel pour éventuellement soutenir le ciel, de peur qu'il s'effondre. Alors, ce qui est une entreprise étrange dans la mesure où Dieu a dit après le déluge qu'il ne reproduirait pas le déluge. Une fois qu'il l'avait fait, il ne le reproduirait pas. Donc pourquoi est-ce qu'on a peur d'un déluge dont Dieu a promis qu'il ne le reproduirait pas? Bon, donc enfin, tout ça me fait dire que c'est des tentatives plutôt étranges ou inachevées que l'expression d'un pouvoir démesuré. Mais si c'est l'expression d'un pouvoir, pardon, c'est un peu long, mais si c'est l'expression d'un pouvoir, c'est intéressant parce que, évidemment, la fondation des villes, sur une violence, on retrouve ça aussi chez Machiavel, avec Rémus et Romulus, avec aussi une violence originelle où il y a un frère qui tue l'autre, mais cette violence va fonder une ville parce qu'en fait, le fait de tuer son frère, génère aussi un regret, une forme de culpabilité dans lequel on va pouvoir domestiquer la violence. Et bien sûr, il y a une violence originelle, mais ensuite, la fondation d'une ville, c'est une forme de matérialisation du souvenir de cette violence originelle qui fait que la violence est domestiquée et qui va aboutir ensuite à un système juridique aussi. Et donc, je me suis dit, tiens, est-ce que le fait d'ériger des tours, une tour immense, c'est l'expression lointaine de cette violence, mais aussi sa concrétion, sa matérialisation et sa domestication. Est-ce que ça peut pas être ça? Et puis ensuite, bon, on ne connaît pas les conditions de travail des ouvriers de l'époque. Donc je me dis, est-ce qu'il y avait une aliénation similaire à la division du travail moderne? Ou est-ce que si la signification de rejoindre Dieu donnait pas un sens à ce travail qui, changerait un peu la donne pour l'effet d'abrutissement, comme dirait Marx, et de la diminution des capacités martiales des individus au travail. Donc, enfin bon, je ne sais pas quelles sont. Est-ce qu'il y a des interprétations de rabbins sur les conditions de travail des gens de la Tour de Babel? Ça serait intéressant aussi de savoir ça. Et voilà, bon, j'avais plein d'autres remarques, mais je pense que c'est déjà suffisant. Voilà. Est-ce que ça tient ou est-ce que c'est un peu une hérésie?
Je te répondrai simplement que il me semble que l'antithèse, elle se pense, il me semble que
en tout cas, du moins, il me semble que c'est un des éléments. C'est un des éléments. C'est que dans la tour de Babel, tu vois, c'est ce que je disais, c'est que l'humanité, en fait, elle est elle-même, elle est aliénée à cette projet de construction parce qu'elle est, elle est elle-même en fait une brique de la construction sociale. Donc, si tu veux ce projet d'atteindre le ciel, tu vois qu'il est il est phallique, c'est un fantasme de puissance. Ce qui fait opposition à ça dans le texte, c'est le projet donc. C'est le rêve de Jacob, ou c'est l'histoire des patriarches, de ce qui se construit autour de l'identité de ce qu'est devenu Israël, jusqu'au temple. C'est un projet où tu vois que l'enjeu, c'est de construire la Tzurat Adam, c'est de construire l'humain. C'est de construire cette singularité. Et que c'est en ça qu'il y a vraiment antinomie. C'est le premier point fondamental. Il me semble que le texte, tu vois, par ce qu'il met en scène, c'est qu'il y a sous cet aspect. Parce que tu vois, c'est vrai que cette parole adressée aux frères, tu parlais de la violence, elle prend d'abord quelque chose, se donne d'abord comme positif, parce que lorsque Caïn s'adresse à Abel, qu'est-ce qu'il lui dit? Bah rien, juste. Il va y avoir Caïn, silence. Et que c'est dans ce silence-là que la violence surge. Donc là, on est. Là, on a la violence est résorbée en ce sens que l'homme parle à son frère. C'est fantastique, c'est la première positivité du texte. Parce que on pourrait dire que toute la Bible se déploie, tout le texte se déploie, enfin, dans ce silence de Caïn. Donc là, l'homme s'adresse à son prochain. On pourrait dire on est dans ce qu'il donne comme l'apparence d'une humanité qui advient à elle-même au regard de l'échec. Mais tout de suite, immédiatement, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'on va faire? C'est quoi cette parole-là? C'est une parole en fait qui nie l'humanité, mais sous un autre angle, qui est de résoudre la question de la relation humaine par un projet qui est aliénant parce que l'humain devient une brique de cette construction insensée, sans intériorité, sans construction du sujet. Et en regard de ça, tout l'enjeu de la civique, c'est de construire la Tzurat Adam. Donc ça, c'est vraiment le point d'antinomie, à mon sens. Après, sur la question de la modernité, juste la question de la modernité, des lectures modernes, tu vois, il y a un Rashi quand même, donc Rashi, c'est 11e siècle, sur Nimrod. Le texte est dit « Gibor Tsaïd », donc c'est un guerrier chasseur. Rashi dit « Tzadatan », il chasse leur esprit. Il a capturé l'idéologie. On est vraiment dans les montages idéologiques. Dans toutes les, on pourrait parler d'Althusser, presque. C'est Althusser dans ces deux mots de Rashi. Donc, si tu veux, il me semble que c'est la question-là. Et je vais te dire comme ça. À mon sens, si pour le formuler de manière vraiment très... De formuler de manière profane... et non pas religieuse, je dirais que ce qui fait que la puissance intemporelle de ces textes et de ces commentaires, c'est que la Bible, ce qui est en jeu dans la Bible, ce sont des invariants anthropologiques. Donc comme ce sont des invariants anthropologiques, ça vaut, sous cet angle-là, à toutes les époques, d'une certaine manière. Partout où il y a des êtres humains, des relations humaines, et donc des constructions sociales, etc., la pertinence des textes bibliques et des commentaires, elle est avérée. C'est pour ça que je me suis permis de faire ces passages depuis sur 3-4 millénaires comme ça. Mais c'est même sur le terme de la tour, c'est quand même assez parlant, quoi. Alors je sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions, mais disons qu'en tout cas voilà, c'était ça que je voulais poser, quoi.
Juste peut-être que tout le monde ne sait pas, c'est la traduction de Sourate Adam.
La forme humaine.
Bernard Kahn.
Bon, merci beaucoup, c'était très intéressant, et aussi avec toutes les références justement historiques. Mais donc, ce que vous avez abordé, c'est beaucoup la dimension de pouvoir au travers de l'architecture, mais il y a une autre dimension de pouvoir qui est celle de la langue, celle est derrière de la culture, avec les notions de, d'influence, de possibilité d'exclure ou au contraire de possibilité de communiquer. Et donc j'aurais voulu vous entendre sur ce sujet-là, c'est-à-dire sur finalement l'aliénation que peut constituer une langue et une culture unique qui serait partagée par tous et qui ferait abstraction des différences héritées de l'histoire, ou au contraire la survivance de langues porteuses chacune d'une culture et d'une histoire, mais avec cette incommunicabilité ou cette difficulté de communication entre les peuples et entre les langues.
Et je peux pas parler de plein d'autres choses qui sont centrales. Pourquoi Dieu descend? Pourquoi il interrompt? Pourquoi il récite? J'ai plein de choses dont je n'ai pas parlé. Donc, ça, c'est la première chose à dire très clairement. Voilà, j'ai pris quelques points pour cadrer. Sur la question particulière que vous posez, elle est très difficile. Elle est très difficile, notamment, elle est très difficile, notamment à mes yeux, parce que, quand même, sur ce texte-là, on a le commentaire aussi de Rashi qui dit une seule langue, il dit c'est la Shona Kodesh. C'est la langue sainte. Déjà, si vous voulez, c'est pouvoir ne pas dire de bêtises sur ce commentaire de Rashi, sur ce texte, etc. Pas simple, il faut réfléchir longtemps. Donc, je vais vous dire très honnêtement, si je m'aventure à répondre à votre question, au moment où j'en suis un an, je crains de dire des bêtises. Donc, je préfère vous avouer tout modestement que je ne vais pas vous apporter des choses intéressantes sur ce point-là, sur cette question-là. Et je suis sûr que vous êtes plus avancé que moi sur cette question-là. Donc, voilà. Mais vous, ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous en diriez, vous? Je suis sûr que vous avez davantage réfléchi que moi.
Non, en fait, ce qui m'intéresserait, ça serait justement de savoir ce que les rabbins ont pu dire dans un contexte de diaspora, de peuples éclatés, des populaires chacun de leur langue, avec une langue sacrée commune, mais avec une langue profane qui est, elle, différente, sur leur capacité à maintenir une culture commune et à dialoguer les uns avec les autres.
Je ne sais pas, il faudrait voir, en tout cas, certainement qu'il y a des sur ces questions-là. Mais ici, mon sentiment, c'est que, tout d'abord, le contexte, c'est une seule langue, une seule parole, c'est pas la même chose, c'est intéressant. Parce que il y a une seule langue et une seule parole, qu'est-ce que ça veut dire?
C'est pas. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'il me semble qu'une seule langue, une seule parole. Voilà, ce que j'ai moi à l'esprit, ce que j'ai réfléchi à ces textes-là, quand j'ai préparé mon intervention, j'ai articulé ce qui m'a semblé fondamental, c'est l'opposition entre Migdal et Baït. Et sur Baït, évidemment, je pensais Bet Hamikdash et Bet Hamidrash. Comme vous disiez, l'anti-tour de Babel aujourd'hui qui n'a plus le Bet Hamidrash, c'est le Bet Hamidrash. Et non, le Bet Hamidrash, qui est intéressant aussi, c'est que cet épisode célèbre de la Gemara, c'est dans Bava Metzia, l'opposition entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua sur le fameux four où Rabbi Eliezer a une voix du ciel qui dit que la halakha est comme lui, et Rabbi Yehoshua qui dit on n'écoute pas, c'est du ciel. Vous savez que les murs du Bet Hamidrash se sont penchés. Et ils sont restés penchés par respect pour Rabbi Yehoshua et par respect pour Rabbi Eliezer. Et cette penchée-là, ça évoque aussi la soukha branlante de David. Et ça, c'est une ce qui se donne comme une fragilité, c'est que la véritable puissance, elle se donne sous la forme de cette fragilité, et c'est l'enjeu de la marque loquette. La marque loquette, que la vérité se donne dans le Talmud, quand il dit Zou, Vezou, Divrei Elokim Chaim, que la vérité se donne sous la forme de la marque loquette. Alors, voilà, c'est plutôt en ce sens-là que je pense que une seule parole, peut-être que c'est antinomique avec la manière dont se donne la vérité dans le Talmud sous la forme de la marque loquette. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, ce Beit HaMidrash dont les murs sont penchés, c'est vraiment l'anti-tour de Babel. Mais vous voyez, je repars sur une idée et je ne réponds pas à votre question. C'est effectivement la question de dans ce texte-là, qu'est-ce que c'est que cette... la manière dont la dispersion qui a déjà été évoquée avant dans le texte, la dispersion des nations selon leur langue, évidemment, c'est une richesse que les histoires humaines se donnent dans leur multiplicité par rapport une seule langue, une seule parole. Je ne peux pas vous dire plus que ce que je vous ai cité, le texte de Liverani, qui m'a paru vraiment intéressant d'avoir ça à l'esprit comme stratégie impérialiste là, des Assyriens. Mais sinon, plus généralement, je vais dire des banalités sur ces questions-là qui ne seront pas en prise avec le texte.
Nathalie Dubas.
Merci beaucoup pour cette présentation très... très intéressante et très documentée, très sourcée. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et alors, ce que vous avez dit, ça m'a fait penser à quelque chose. J'ai lu un commentaire du Rav Sacks sur la construction du premier Beit HaMikdash par le roi Salomon. Et alors, pour abonder dans cette opposition, mais en même temps apporter une nuance par rapport à ces histoires d'aliénation. En fait, dans le texte de la tour de Babel, l'aliénation, elle est à double niveau. Elle est à la fois dans le projet de tour lui-même, qui est de s'élever vers le ciel pour défier Dieu, si on retient cette vision, cet objectif, au-delà du côté mausolée ou du côté retenir les eaux du ciel. Et il y a une aliénation aussi dans la manière dont ça a été fait, puisqu'il y avait une exploitation ouvrière. Selon certains commentateurs, les ouvriers étaient de la matière première pour cette tour. Et puis quand ils mouraient, on les remplaçait immédiatement par d'autres. Il n'y avait pas de repos. Et plus ça allait, plus il fallait monter haut, plus leurs conditions de travail se dégradaient. Ça, c'était pour la tour de Babel. Et ça se termine comme ça se termine. Pour le Beit HaMikdash, c'est un peu différent, puisque là, le projet n'est évidemment pas de défier Dieu, mais au contraire, de lui construire une maison. Néanmoins, le Rav Sacks... Alors, j'espère que je ne vais pas trahir l'analyse qu'il a faite, mais il a évoqué les conditions de travail sur le chantier du temple et le fait que les conditions n'étaient pas socialement tout à fait acceptables, ce qui fait que le temple était entaché d'une fragilité de par la manière dont il a été construit et ce qui pourrait participer à l'explication de sa destruction. Et donc, finalement... Il y a la question de l'aliénation, elle est à la fois dans le projet lui-même, mais aussi dans la manière dont on réalise le projet, qui peut là aussi se dévoyer selon la manière dont ça se passe. Donc voilà, c'est juste pour abonder un peu dans ce sens-là et l'élargir sur la question du temple et des conditions de sa réalisation.
Oui, c'est, j'ai évoqué le fait que la haftara de la paracha de Rouma est. On voit apparaître par rapport à ce qui est quelque chose vraiment d'accompli dans la construction dans le projet du Mishkan, alors qu'on voit que la question de la corvée détonne, elle impose la corvée au regard de la libre volonté des Béné Israël en sortie d'Égypte. Et que vous voyez, je vous dis aussi, le texte biblique, sur c'est vraiment pas un texte de propagande, parce qu'on voit toute la problématisation, et vous voyez qu'à la fin, justement, aussi, Shlomo HaMeler, il va épouser la princesse égyptienne, et de là, le Talmud dit que c'est là que vient Rome. Donc, a priori, il n'y a pas de rapport, parce que la naissance de Rome n'a rien à voir historiquement avec le fait que... Le point est qu'il y a le danger, que quelque chose de l'Égypte s'immisce. C'est pour ça que chaque année, on doit sortir d'Égypte. Donc oui, le texte, il montre bien, et étudier dans le détail, ces tensions. C'est bien aussi, David aussi, le prophète Nathan. Sans cesse, la figure du roi, elle est très problématique dans la vie. Vous avez raison. Mais c'était pas vraiment une question, en fait.
Non, en fait, c'était plus ce que ça m'a inspiré en vous écoutant.
Moi, j'avais une question par rapport à l'aspect violent de l'entreprise, parce que ça ne se dégage pas du texte.
Benjamin était déguisé.
Et même les commentateurs, ils comparent la génération du déluge à la génération de Babel. Pourquoi elle n'a pas été finalement frappée, la génération de Babel? Parce qu'il n'y avait pas de violence, justement, entre eux. Alors, je ne sais pas, vu comment tu as ramené les entreprises assyriennes, etc., de rapatriement des prisonniers pour la construction, où on voit clairement un système violent. En ce qui concerne Babel, non, pas du tout. On voit. Alors peut-être là, il faudrait revenir aux paroles, en fait, comment ça introduit, en fait, le thème, avec une parole, enfin, une langue, un slogan, ou je ne sais pas comment il faudrait le traduire. Mais peut-être la violence, elle est plus même comme, même avec Nimrod, qui capturait les hommes par la parole, c'est dans le commentaire de Rachid. Ça serait une violence du type. Je sais pas. Enfin, tout le monde irait de bon cœur à cette construction, sans trace de violence. Mais alors.
Bon. Je dirais que t'as raison. Ça, que, en voyant les allusions, références historiques, on sait bien que Babel était une extrême violence.
C'est clair. C'est acquis qu'ils étaient extrêmement violents. T'as raison que dans le texte ici, le point est que c'est a priori de chacun dit à son prochain, allons-y, fantastique, aimons-nous les uns les autres et construisons cette tour. Quoi. Ça se donne comme ça. Et il me semble que la violence dans le texte, elle est sous-jacente à la fleur, mais ce que ça nous dit, c'est que même sous cette forme-là, a priori non violente, sympathique, c'est d'une extrême violence. Parce que le projet lui-même, en tant que tel, il est, si tu veux, ce qu'il appelle la compulsion de répétition, l'enrégimentement, l'instinct de mort est à l'œuvre. L'instinct de mort est à l'œuvre même sous la forme la plus pacifiée, la plus heureuse, la plus champêtre. L'instinct de mort est à l'œuvre. À mon sens, c'est ça que signale le texte.
C'est pas violent, mais plutôt un instinct de mort. Alors. Je ne sais pas si l'instinct de mort,
il y a quelque chose de... Non, mais tu as raison.
C'est deux concepts différents.
Mais... Au sens où il peut y avoir une violence symbolique très forte aussi. Tu as raison que c'est pas alors effectivement, peut-être une annihilation, en tout cas. Donc voilà, je pense que ça joue sous c'est comme si le texte disait, voilà, la violence guerrière, violence au sens propre, elle est acquise historiquement, et puis même dans le texte, dans la Bible, dans le Tanakh, après, les armées de Nabucodonosor, sur les prophètes, sur le saisir les hommes, toutes les violences dans les prophètes, on sait bien que... Mais en plus, même sous sa forme appris, qui se donne comme non-violente, et même là, c'est l'instinct de mort est à l'œuvre. Comme ça qu'il me semble que le texte.
Oui, ma question est de... On voit bien que le texte est incroyablement équivoque, on a du mal à... Alors, imagine une question qui porte plutôt sur ta démarche. On en a déjà parlé, mais je la pose à haute voix, comme ça, je peux avoir de nouveau une réponse, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, et tout le monde peut en profiter. Tu as le texte, qui est ta matière. Alors, est-ce que le texte, donc là, l'extrait qui porte sur la tour de Babel, est-ce que le texte produit sa propre vérité? Et si ce texte produit sa propre vérité, la première partie de ton exposé qui consiste à montrer qu'il est en prise avec l'histoire, normalement, est superfétatoire. C'est-à-dire que soit ce sont des catégories, disons, absolus de la vérité qui sont extraits du texte. Et à ce moment-là, qu'est-ce que l'histoire vient faire là-dedans ? Pas grand-chose. Soit il ne produit pas suffisamment sa propre vérité, de sorte qu'il doit y avoir un aller-retour entre le texte et, je ne sais pas, les événements historiques. Et à ce moment-là, c'est une autre démarche. Mais j'ai parfois le sentiment qu'on est dans un entre-deux qui, pour moi, n'est pas clair. Est-ce que tu peux essayer de le clarifier ?
Oui, alors je te dis comme ça, la première chose. C'est le pshat, le remes, le drash, tout ça. Ouais. Donc c'est sûr que si je m'en tiens au pshat, je laisse de côté toutes les références que j'ai faites à l'histoire et je prends le texte et les versets depuis Caïn, Caïn et Abel, la construction de la ville, les descendants de Caïn, ce qui est les éléments du texte, comment ensuite l'événement entre les trois fils de Noé, Ham, l'acte de Ham, la descendance de Ham, comment Nimrod apparaît, qu'est-ce que veut dire Saïd, le mot chasseur qu'on voit réapparaître avec Ishmaël, qu'on voit réapparaître avec Ésaü. Okay. Et là, tu es dans l'économie immanente, littérale du texte, du pshat, tu verras apparaître ces concepts-là. Et comment tu verras... je pourrais, en quelque sorte, montrer parce qu'il y a ce qui précède et ce qui suit, le texte produit ses propres concepts. Mm-hmm. Mais comment c'est, et puis alors, le midrash le sod, c'est mais le remez, comme le texte a aussi, tu vois, il a plusieurs niveaux, donc tu peux le lire comme de manière autonome, pour tenir, si tu veux, à la cohérence et la manière dont le texte présente ses concepts et le sens des mots et donc de ce qui s'élabore, mais tu peux aussi t'autoriser quand le texte fait allusion à un événement historique, te renseigner et connaître le contexte historique va te permettre de repérer peut-être ce à quoi le texte peut faire allusion et va te donner des éléments. Mais qui veut pas dire que, mais ça veut pas dire que tu dois connaître que sans savoir lire ces livres, tu pourrais pas interpréter, tu pourrais pas comprendre le texte. C'est parce que j'ai voulu.
Toi, parce que le problème, c'est que naturellement, dès lors que tu as ce statut où il y a référence à l'histoire, donc tu vas voir l'histoire. Ça veut dire que l'histoire peut aussi, naturellement, après, la démarche peut être, l'histoire ne peut que confirmer. Mais pendant que tu faisais ton exposé sur les empires, le fait qu'il y a urbanisation, qu'il y a construction verticale, monumentalité, etc., je pensais au cas de... du sud américain, du sud des États-Unis, ou dans les États du Sud, où il y a très peu de construction urbaine, aucune monumentalité, une population qui esclavagise une énorme partie de la population, les Noirs, et le seul lieu où ils se retrouvent, c'est dans leur église de village. Donc voilà, ça vient, à mon avis, c'est un exemple, effectivement, d'aliénation complète, d'esclavagisme, et où ça se fait apparemment dans un contexte où il n'y a pas de centralité urbaine, pas d'impérialisme, pas de projet monumental. Et donc c'est dangereux, là, cette stratégie, parce que naturellement, à ce moment-là, ça vient infirmer, tu vois, le remes vient en quelque sorte infirmer ce qui devrait tenir seul dans le pshat.
Ah, vraiment, d'abord, remèze, encore une fois, parce qu'il n'y a plus de remèze ici. C'est pas un exercice nécessaire. Okay. Je ne présente pas comme une nécessité. Ce sont des éléments qui m'ont paru intéressants d'apporter à la réflexion. Mais je ne présente pas en faire des arguments d'autorité. Certainement pas. Donc voilà. Donc ils ont leurs limites. Et puis tu veux dire, ils ne sont pas pertinents. Ça se discute. Alors, c'est la première chose. Donc, tu vois, c'est pas... encore une fois, je dis, le pshat, tu peux... Et j'ai fait référence, quand même. Si, je n'ai pas parlé que de ça. Tu vois, mon propos était de mettre en rapport à ce qui précède, au rêve de Jacob, à ce qui suit, à la cohérence du texte dans son ensemble. C'était là. Tu peux retenir de mon exposé que ça.
Non,
mais je veux dire, pour, c'est oui. Éventuellement. Ensuite, concernant quand même l'esclavage sud des Américains, sud des États-Unis, bien qu'il y a des exemples certainement qui contredisent dans l'histoire de loi générale, mais quand même concernant l'esclavage et l'islam sud des États-Unis, là, tu ne peux pas faire abstraction de la configuration historique qui vient que quand même que, c'est, que la traite des Noirs a supposé l'impérialisme occidental, qui a été le digne successeur dans cette construction impérialiste de Babel, etc. Ces Noirs ne sont pas venus là-bas comme ça. Il y a toute une logistique derrière et qui est articulée à une forme de monumentalisme, en ce sens-là. Donc je veux dire, tu as raison que ce n'est pas une loi, mais voilà, c'est quand même, je pense que les positions de Testard sur la question du monumentalisme me paraissent assez, assez pertinentes.
Encore une question ? Osez, je sens que... Je sens bien.
Bon, je... D'abord, merci beaucoup. Je suis extrêmement embarrassée devant vous tous parce que je fais une lecture très profane et très pshat, très littérale. Et effectivement, je suis arrivée aux mêmes conclusions que toi, c'est-à-dire que... mais je l'ai trouvée dans les mots, si tu veux. Safahad Udvarim Khadim, je l'ai pris immédiatement, mais parce que c'est ce qui me travaille en ce moment et que je travaillais un peu avec Hannah Arendt, le système totalitaire, etc. Ça ajoutait un peu cette lumière-là dans ma lecture du texte. Safahad, une langue, une, et des mots, un. C'est-à-dire, je l'ai vraiment traduit au ras des pâquerettes. C'est ce que je fais un peu avec Rachi aussi. Et donc, ça m'a conduit à ça. Et puis, je me suis attachée à un ou deux marqueurs. J'en ai déjà parlé devant toi l'été dernier. Vayehi. Hein, le vav conversif annonciateur de malheur, et dans le deuxième verset aussi, Vayehi ben asam mi kedem, j'ai pris kedem comme le retour en arrière vers le passé qui est celui effectivement du sacrifice d'enfant, de la civilisation chaldéenne. Donc, ils viennent, non pas seulement d'Orient, mais ils viennent aussi de la mort, d'une civilisation de la mort. Et donc, ce sont ces gens-là qui disent « construisons une tour ». Ce sont ces gens-là qui viennent de Kedem, qui disent « Hava Nivne ». Mais je dis peut-être des bêtises, mais j'ai essayé de rester sur l'autre signification. Des mots, toujours comme ça, et donc ce que fait Dieu. Alors, les hommes disent, construisons, montons une tour. Dieu descend, donc il fait le mouvement inverse et il disperse. Et si tu veux, la traductrice que je suis a vu dans cette dispersion Nebalbel, balbelons leur langue, la chance de la traduction. Parce qu'ils ne se comprennent plus, donc il faut se parler. Il faut essayer de se comprendre. Et la langue et les choses et les mots totalitaires, hein, c'est justement ce monolithisme. Enfin, moi, je te retrouve à travers le chemin du pshat, vraiment. Sans référence extérieure, où je vous rejoins dans ta méthodologie, si tu veux. Mais on retrouve la même chose.
Non, mais j'attendais tout à fait.
Merci beaucoup.
À part la référence que j'ai faite à l'Irani pour faire entendre ce que pouvait être cette langue unique dans la stratégie impérialiste des Assyriens, qui me paraissait intéressant. Bon. Mais non, comment le comprendre ce qui est difficile, c'est que le commentaire de Rashi, quand il dit une seule langue, c'est la Lashon HaKodesh.
Oui.
Pourquoi? Mais est-ce que c'est vrai que c'est sûr, bon, la pluralité des langues, la traduction, tout ça, c'est effectivement, c'est extraordinaire, c'est très bien, tout, on est tous d'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est parce que pourquoi Rachid, parce qu'on est, quand même dans la logique du texte, on sort de l'arche. Et la Shona Kodesh, pourquoi c'est la langue qui a traversé le déluge. Parce qu'on est après le déluge. C'est une seule langue, et quand une seule langue, c'est. Sans être nommé, ça ne peut être que la Shona Kodesh. C'est la Shona Kodesh. Et donc, c'est intéressant parce que ça rend le texte un peu plus difficile que ça. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je ne me suis pas aventuré. Parce que ça rend le texte. Parce que c'est. Donc, en ce sens-là, c'est presque comme si on pourrait comprendre qu'une seule langue. Je sais pas. Mais voilà, mais j'entends très bien ce que tu dis, on est d'accord. Moi aussi, Levana, au passage, c'est écho avec Lavan. Et Lavan, c'est, oui, quand Jacob il vient, Lavan, c'est l'exploiteur. C'est bon. Toute sa splendeur. C'est vraiment le. La vanne, si on pourrait dire, c'est le négrier, quoi. Dans l'histoire de l'esclavage. C'est vraiment, il y a quelque chose de ça. Et donc, c'est intéressant. Parce que Chouraki, il insiste là-dessus. Chouraki, il traduit. Chouraki, il dit, comment il dit? Il dit. Non, c'est. Où est-ce que j'ai dit ça? C'est peut-être Méchonic qui dit sur la qui parle de la blancheur. Blanchisson, ouais, il joue sur les vannes blanchissons. Bon, mais bah, voilà, c'est sûr que je n'ai fait que survoler, poser des liens très loin de ces textes. Encore une fois, vraiment, j'insiste et voilà. J'ai posé certains éléments qui est vraiment sur le point de position entre. Rêve de Jacob et la construction de la tour qui paraît être le point. Et sur comment la notion de Réchout et Yachid, c'est ça qui va aussi. C'est ça, Hachem. C'est ça, fondamentalement, qui va aussi. C'est ça, l'anti-tour de Babel. C'est de construire son Réchout et Yachid, c'est ça. Réchout et Yachid, domaine du singulier, pas l'espace privé, bourgeois.
Une petite question, je vais ravir quelqu'un.
Merci beaucoup pour cet exposé. Pour aller dans votre sens, vous avez construit, comme vous l'avez dit, sur l'opposition entre Nigdal et Baït. Ça m'a fait penser à une Gemara dans Psachim qui dit qu'il y a une différence entre les patriarches, qu'Abraham il a appelé l'endroit du Beth Amikdash Har, montagne, Yitzhak il a appelé Sadé, c'est champ, et Yaakov il a appelé Baït. Donc on ne voit pas la notion de Migdal, et en plus on voit cette notion de Har qui est une tour mais naturelle, après comme s'il voulait faire table rase et ensuite pouvoir ensuite construire une maison. Donc ce serait une démarche différente par rapport à la tour de Babel. Ça peut être.
Et puis il y a aussi dans le Sakhim ce passage à la fin, là, où tu vois qu'il y a cette espèce de panne autour. Il dit que Aaron, c'est le père de Michel. Dans ce moment, on dit qu'Aaron, il y a 60 places de marché, et dans chaque place,
il y a une espèce de bâtiment qui a 60 étages, et dans chacun de ces étages, il y a 60 pièces, et dans chacune de ces pièces, il y a de quoi nourrir le monde entier.
C'est pas la hauteur, mais c'est la multitude par l'espace.
Mais quoi. Voilà, mais c'est l'amoncellement aussi. Et c'est un amoncellement qui est la capture. Parce qu'ils ont de quoi nourrir tout le monde entier, et dans le monde a faim. Et c'est la capture, ils saisissent. Et en somme, il faudrait Joseph pour que. Ouvrir les entrepôts et donner à ceux. Mais donc, voilà, c'est pas le mot tour là-bas. C'est pas le mot tour, mais c'est. Mais bon, c'est l'idée. L'idée hier, puisque. Parce que je crois que c'est. Ah, c'est 300, chez le chemin. 365. Bironiot. Hirachik, pardon.
C'est 365 marchés, c'est ça.
Il y a 365 et 365 bâtisses. Et Bironiot, qu'est-ce qu'il dit, Rachi, sur Bironiot? Bironiot, là. Hein? Comment tu traduis Bironiot?
C'est une
de
Bira, peut-être. Une tour ou un palais, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est des bâtiments, c'est une grande bâtisse. Ouais. Ouais. On trouve aussi.
Ce que je disais, c'est que dans la tour en question, il n'y a que de l'extérieur, il n'y a pas d'intérieur. Et le bait, il n'y a que de. Enfin, c'est essentiellement l'intérieur, ce que tu dis sur le Beth Amikdash. On a bien fait une couverture pour fabriquer de l'intérieur. L'extérieur n'est pas fondamental. Et on voit quand les pyramides égyptiennes. Elles ne sont pas complètement vides, mais tout ce qu'on a trouvé à mettre dedans, c'est des morts. Alors à Dubaï, comme ils font aussi du business, alors ils ont aussi la tour, ils l'ont faite, et ils ont fait des trucs qui rapportent. Parce que si on a que de l'extérieur, ça ne rapporte rien. Mais la différence, effectivement, c'est entre que de l'extérieur et de l'intérieur. C'est ça la différence.
Oui,
il n'y a que de l'extérieur. C'est pas fait, c'est pas prévu, il n'y a pas l'intérieur. Et la force de Yaakov, c'est qu'une pierre qui, où il n'y a que de l'extérieur, il va en faire de l'intérieur. Il dit, j'ai cette pierre, je vais en faire un bait. C'est un paradoxe, puisque la pierre, qu'est-ce que tu vas faire de pierre une pierre? Ta pierre, elle ne va pas devenir un bait. Donc, ça va être Even Apina, éventuellement.
Oui, c'est ça.
Mais pour madame, les Emnasumikedem, c'est-à-dire ils ont voulu partir de, des sacrifices Merci. Humains.
Oui.
C'est pas seulement qu'ils en viennent, ils ont Emnasumisham. Ils sont partis de là-bas. Donc ces gens qui arrivent, ce n'est pas des gens qui viennent de cet endroit et que ils sont, ça ne les dérange pas, ils en viennent transport. Ils ont voulu s'éloigner. Et malgré tout, qu'est-ce qu'ils ont produit ? Ils produisent la tour de Babel. Donc le rachi, c'est rendre le texte incompréhensible. Bon, c'est la seule chose que j'ai pensé, c'est peut-être que rachi veut dire, mais bon, c'est assez lointain, quand je veux dire que même si la langue, c'était la langue, la Shana Kodesh, ça serait toujours aussi mauvais. On ne peut pas sauver le projet de la tour de Babel en changeant de langue, même en prenant de la Shana Kodesh. Parce que tout le monde dire que c'est la Shana Kodesh, c'est incompréhensible.
Avec Pessah et prévu des vacances scolaires, donc on fait une pause. On reprend dimanche 14 mai avec comme invité Vincent Payot. Donc notez déjà dans votre agenda à 16h en après-midi. Merci beaucoup. Merci.